Le journal avec Corinne Audouin.
Bonsoir. À Marseille, les supporters de l'OM disent adieu à leur président emblématique, Bernard Tapie, qui les avait emmenés à la victoire en Ligue des Champions. Marseille, sa ville de cœur, où Bernard Tapie, mort ce matin à l'âge de 78 ans, sera enterré. Il fut aussi un homme d'affaires, un repreneur qui n'a pas toujours laissé de bons souvenirs, comme chez les anciens de Manu France à Saint-Étienne. 3000 hommes d'église, prêtres ou religieux ont commis des violences sexuelles sur des enfants depuis les années 50. Première conclusion du rapport de la commission indépendante qui sera rendue mardi. Une estimation minimale établie grâce à une plongée dans les archives cléricales. C'était sa première participation et c'est une victoire. Le cycliste italien Sonny Colbrelli remporte un Paris-Roubaix épique. Nous rejoindrons Fanny Lechevestrier à Roubaix à la fin de ce journal. Et puis attention à la pluie qui va repartir de plus belle en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous dira Jean-Michel Golinski de Météo France.
France Inter.
Chanteur, entrepreneur, président de l'OM, ministre ou encore patron de presse, Bernard Tapie a eu mille vies. Les hommages du monde sportif et politique continuent de pleuvoir. Depuis l'annonce de sa mort ce matin à l'âge de 78 ans, le Premier ministre Jean Castex a salué un combattant et un homme très engagé, notamment contre l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, contre qui il avait beaucoup ferraillé, a rendu hommage au caractère exceptionnel de sa personnalité. Les obsèques de Bernard Tapie auront lieu à Marseille, sa ville de cœur. C'est sous son règne en 1993 que l'OM avait remporté la Ligue des Champions et des Marseillais sont venus lui rendre hommage devant le Stade Vélodrome. Olivier Martoc.
Un portrait en noir et blanc a été installé à la mi-journée sur le parvis du Stade Vélodrome. Les supporters écrivent des messages dessus. Si les jeunes n'ont pas grand-chose à dire, car les années tapis remontent à 30 ans, elles ont bercé en revanche les rêves de leurs aînés.
C'est lui qui a tout réussi, c'est lui qui a ramené un maximum de titres avec des joueurs extraordinaires comme Francescoli, Waddell, Papin, etc.
Ça représente les belles années de l'OM, ce que l'on a pu vivre de plus haut avec l'OM.
Il avait aussi ce côté qui donnait l'impact à l'équipe. Son côté fonceur, il entraînait tout le monde avec lui. Quoi. La Coupe d'Europe, c'est le Graal, on l'a vu encore cette année. Paris fait tout pour l'avoir et puis... il n'y arrive pas.
Plus surprenant, tous ces supporters des années tapis se souviennent aussi de la descente aux enfers après l'affaire de corruption du match contre Valenciennes, la rétrogradation en Ligue 2 et la fin du rêve.
C'est l'ambiguïté du personnage qu'on peut adorer, idolâtrer et puis haïr parce qu'on se sent trahi.
Si on fait la balance, ça peut être occulté parce que l'on a vécu.
L'OM s'apprête à rendre un hommage officiel à Bernard Tapie. Une chapelle ardente pourrait être dressée dans le stade Vélodrome pour que les Marseillais puissent venir se recueillir. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et puis Bernard Tapie, c'était aussi un homme d'affaires. Il s'était spécialisé dans les années 80 dans la reprise à la chaîne d'entreprises en difficulté. Les balances Terraillon, les fixations de Ski Look ou encore les piles Vendeur ou Adidas. Mais rares sont les sociétés qu'il a réussi à faire prospérer. Dans l'aventure Manu France, Bernard Tapie voulait racheter la marque stéphanoise, icône de la vente par correspondance, placée en liquidation, mais pas vraiment pour la redresser. Daniel Durand se souvient très bien de cet épisode. En 1980, il était membre du Parti communiste dans la Loire.
Bernard Tapie a fait partie des nombreux hommes d'affaires, pour ne pas employer de termes plus péjoratifs, pour ne pas parler de requins, qui se sont précipités à Manu France après l'annonce de sa liquidation. Manu France, à l'époque, c'était la production surtout de vélos, de fusils de chasse. Et puis, Manu France avait, disons, une pépite, comme on dit maintenant, qui rapportait, c'était la revue Chasseurs français. Bernard Tapie est venu. Et les représentants des salariés se sont vite rendus compte qu'ils n'étaient intéressés que par le dépeçage de Manu France et de ne reprendre que les parties les plus rentables. Et les salariés, lors d'une rencontre, lui avaient fait comprendre assez vivement dans les locaux de Manu France qu'ils n'étaient pas le bienvenu.
Daniel Durand répondait à Lauriane Havard de France Bleu Saint-Étienne. Dossier complet sur la vie de Bernard Tapie, c'est à retrouver sur notre site franceinter.fr. C'est un rapport explosif et très attendu que rendra mardi la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Au terme de 2 ans et demi de travaux, son président Jean-Marc Sauvé donne déjà ce chiffre qui fait froid dans le dos. Il y a eu entre 2900 et 3200 pédocriminels au sein de l'Église catholique en France depuis 1950. Une estimation minimale, précise la commission, qui a épluché des kilomètres d'archives pour arriver à ce chiffre. Articles de presse, archives de la justice et de la police, mais aussi celle de l'Église qui a joué la transparence. Ces recherches ont été menées par Philippe Portier, politologue, historien, membre de la commission. Il craignait de ne rien trouver dans les dossiers de l'Église. Ça n'a pas été le cas.
Dans le code de droit canonique, il est précisé que pour les causes criminelles, les dossiers doivent être expurgés au bout de 10 ans. Donc il y avait une sorte d'angoisse, si vous voulez, devant le vide que pouvaient représenter les fonds archivistiques. Ça n'a pas du tout été le cas. Nous nous sommes aperçus très vite que les fonds de l'Église étaient extrêmement riches et pouvaient nous permettre de travailler. Ils sont extrêmement révélateurs, d'abord du point de vue quantitatif. On s'aperçoit que sur les 70 ans que nous avons explorés, il y a eu un nombre d'abuseurs tout à fait important, se traduisant évidemment par un nombre de victimes également tout à fait monumental. Et au niveau qualitatif, grâce aux archives, nous avons pu repérer les profils des abuseurs, les profils aussi des victimes, les logiques de l'abus, et plus encore peut-être les politiques mises en place par l'institution pour essayer de traiter, parfois de dissimuler les abus dont elle avait connaissance.
Philippe Portier, interrogé par Béatrice Duguay. Dans la majorité des cas, les faits sont aujourd'hui prescrits et les auteurs décédés. La commission rendra une liste de 45 propositions pour améliorer notamment l'écoute des victimes, la prévention et la formation des prêtres et religieux. L'Algérie hausse le ton contre la France après avoir rappelé son ambassadeur hier. Alger interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui empruntent d'habitude son espace aérien pour se rendre au Sahel. C'est une réaction aux propos d'Emmanuel Macron mercredi dernier, des propos rapportés hier par le journal Le Monde. Le président estimait que l'Algérie s'est construite après l'indépendance sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. En sport, premier échec en Ligue 1 de football cette saison pour le PSG. Paris a perdu 2-0 contre Rennes, mais reste leader du classement avec 6 points d'avance sur Lens. Et puis c'est une victoire au sprint dans le vélodrome de Roubaix pour le cycliste italien Sonny Colbrelli devant les favoris belges et néerlandais au terme d'une 118e édition dantesque du Paris-Roubaix, la reine des classiques cyclistes. Les chutes, les crevaisons, la boue qui recouvrait les coureurs de la tête aux pieds. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir.
Rien n'a manqué hein, Fanny, sur ces 257 kilomètres de parcours.
Oh non, c'est une édition qui restera effectivement dans les annales. Vous l'avez dit, une course disputée dans des conditions très difficiles, sous la pluie, les trois quarts du temps, dans la boue jusqu'au bout. Une course émaillée de nombreuses chutes très spectaculaires, plus spectaculaires les unes que les autres. On a eu peur pour les coureurs et c'est effectivement au bout de tout cela, eh bien, le champion d'Europe en titre, l'Italien Sonny Colbrelli, qui l'a emporté au sprint devant le Belge Florian Vermeij, tout jeune Belge, 22 ans, et le Néerlandais, grand favori, Mathieu Van Der Poel. Colbrelli qui en a levé son vélo vers le ciel à peine la ligne d'arrivée franchie. À noter la belle 6e place hein, du Français Christophe Laporte. Mais c'est vrai que ce soir, ce que l'on retient, ce sont ces masques de boue et de souffrance après 257 km de course, des gueules de coureurs, les yeux rougis par la douleur et la terre, fiers finalement d'avoir terminé, d'être allé au bout de ces 257 km qui n'auront rarement aussi bien porter leur nom que l'enfer du Nord.
Merci Fanny Lechevestrier. C'était donc ce journal et après la pluie, on continue avec la pluie.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Et attention toujours à la pluie et aux orages. Jean-Michel Golinski.
L'épisode de pluie Cévenol va prendre fin cette nuit. Pour l'heure, le Gard, l'Ardèche et la Lozère restent en vigilance orange. Un phénomène s'arrête et un autre commence. Ce sont les orages qui vont s'installer à partir de ce soir sur les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes d'Haute-Provence, également en vigilance orange. Des orages souvent marqués avec déjà de fortes précipitations cette nuit et demain matin. Après une interruption de quelques heures, une nouvelle vague orageuse va gagner toute la région PACA ainsi que la Corse. Des orages souvent très pluvieux. Ailleurs, le temps sera plus calme, relativement dégagé entre le nord de la Seine, le centre et les Pyrénées, plus chargé de part et d'autre avec un ciel maussade le matin près des frontières et l'arrivée de pluie l'après-midi par l'océan.